Philippe Vandel est de retour avec sa série des Pourquoi pour répondre à toutes vos questions sur les Jeux Olympiques.
Il y en a tellement. Pourquoi un joueur de foot ne peut pas retirer son maillot pour célébrer un but? Pourquoi l'équitation est-elle la seule épreuve mixte des Jeux Olympiques? Et d'ailleurs, pourquoi certains sports sont-ils olympiques et pas d'autres? Des questions évidentes, mais des réponses étonnantes. Plongez avec moi dans l'univers fascinant des Jeux Olympiques et du sport.
Les Pourquoi des Jeux Olympiques, un livre surprenant de Philippe Vandel, aux éditions Kero.
Coman qui est passé, Coman qui va centrer pour la volée de Blaise Matuidi, la superbe volée.
RMC, Louis attaque, Gilbert Bribois, Luis Fernandez.
L'UEFA
Euro 2016 a déjà commencé.
Et oui, on est là, on est présent, on va l'attaquer cette dernière heure, ce dernier heure de Louis attaque, mon petit Gilbert, et on est avec monsieur Steve Savidan, l'adversaire, celui que je préfère, celui que j'aime.
Je suis heureux de faire la dernière de la saison Louis attaque, enfin gagner le Tequitoi et montrer à la France entière qu'en fait c'était une escroquerie, t'as triché pendant un an.
Ça qui triche tous les soirs.
Non mais j'ai fait exprès. Non,
c'est comme, qui triche tous les soirs, c'est vrai.
Mais je sais. Non, mais maintenant, on va le croire, on va le voir.
Alors le programme de la deuxième heure de Louis attaque.
Mais pas honte.
On a parlé de l'équipe de France pendant une heure, messieurs. On va maintenant parler des autres sélections et se poser cette question. Mais qui sera la star de l'Euro? Rappelez-vous, par exemple, il y a quatre ans, Balotelli avait été la star de l'Euro. Rappelez-vous quand il marquait des buts et l'impact qu'il avait eu sur cet Euro et sur l'équipe d'Italie. Qui sera la star cette année? Et puis nous parlerons arbitrage avec Joël Quignou dans quelques minutes, notre arbitre radio, car il va y avoir des nouveautés lors de cet Euro et Joël va tout nous expliquer concernant le hors-jeu, concernant la double peine, concernant les cartons. Vous allez voir, il y a des petites subtilités qu'il faut bien comprendre avant l'Euro. Plus l'OM, France Football annonce...
Est-ce qu'il y aura toujours des erreurs? Non, parce que sinon on peut pas débattre.
Ouais.
Alors, attends, on verra ça avec Joël, il aura peut-être une idée sur la question, mais laissez-moi terminer le sommaire. Le projet iranien à l'OM est-il sérieux? France Football annonce qu'un fonds d'investissement iranien est prêt à investir près de 500 millions d'euros. Plus d'infos à suivre dans Louis attaque. Sans oublier donc le Tequitoi. Vous envoyez Louis par SMS au 732-16 pour vous inscrire. Avant ce programme chargé, messieurs, le Stade de France, Mohamed Bouafsi, les Bleus sont actuellement à l'entraînement, le dernier avant le match France-Roumanie
Momo,
de demain soir.
Les chasubles, regarde bien les chasubles.
Je vais te donner une première information, Louis.
Que Martial va démarrer le match. Donne-moi vite, vas-y.
Je peux te dire qu'on essaie bien sûr de travailler sur ces informations concernant cet entraînement à huis clos, bien évidemment, et Didier Deschamps a déjà effectué une mise en place, la première mise en place, qui nous donne un indice très très fort. C'est l'indice avec un Dimitri Payet qui est dans l'équipe des titulaires. Pour l'instant, il a le chasuble des titulaires et ça confirme donc les informations concernant ces comptes probables qu'on vous donne depuis deux jours sur RMC, avec cette volonté de Didier Deschamps de mettre Dimitri Payet à droite, Antoine Griezmann à gauche et Olivier Giroud en pointe.
De l'autre côté,
pour l'instant,
Momo,
sont les derniers indices.
Momo, je te rectifie. Griezmann à gauche et Griezmann à droite et Payet à gauche.
J'ai dit ça?
Tu m'as dit Payet à droite et Griezmann à gauche.
Payet à gauche et Antoine Griezmann à droite et Olivier Giroud en pointe.
C'est bien, petit Momo. Regarde bien. Je te donne un conseil. S'il y a un changement, s'il y a une interruption, suis bien. Ne lâche pas des yeux et des chasubles. D'accord, c'est très important.
Je fais ça. Voilà. Pas de souci.
Ciao, à tout à l'heure. Tu nous rappelles si tu as d'autres infos, évidemment. Quelles seront les stars de l'Euro? On va prendre des nouvelles d'une des stars de cet Euro qui est d'ores et déjà annoncée, c'est Cristiano Ronaldo. Loïc Braillet est auprès des Portugais qui sont arrivés. La délégation portugaise est arrivée aujourd'hui et Loïc est à l'entraînement avec beaucoup de monde autour de lui. Bonsoir Loïc.
Salut
Loïc.
Exactement. Salut Gilbert, salut Louis, salut à tous. Je suis autour de 1000 chanceux qui ont été invités par la fédération portugaise pour assister à ce tout premier entraînement effectivement de Cristiano Ronaldo et de ses coéquipiers qui sont arrivés en tout début d'après-midi ici au Centre National du Rugby.
À qui sous les yeux, messieurs, des joueurs du 15 de France qui sont en partance pour Roissy pour rejoindre ensuite l'Argentine pour la tournée des hommes de Guy Noves. Et du coup, il y a eu un petit échange dans l'après-midi entre Cristiano Ronaldo et les coéquipiers de Jules Plisson, les rugbymen qui sont chez eux ici. Et du coup, ils ont en quelque sorte laissé les clés aux Portugais pour cet Euro. Et l'engouement est déjà énorme autour de la star Cristiano Ronaldo, qui à défaut d'être pour l'instant la star de l'Euro est déjà sûrement la star de Marcoussis. Ce qui est assez hallucinant, c'est qu'évidemment il y a eu beaucoup plus que 1000 demandes pour assister à cet entraînement. Et juste à gauche du terrain d'honneur de Marcoussis, il y a un concessionnaire automobile et il y a une dizaine de supporters qui sont sur le toit de ce concessionnaire pour assister à l'entraînement. Bref, voilà, c'est un vrai engouement ici maintenant. Petite opposition actuellement aussi avec les Portugais de Cristiano Ronaldo.
Voilà Cristiano donc qui est lui d'ores et déjà lancé comme une des stars de l'Euro. Et Louis, tout à l'heure je te disais que moi j'avais fait mes petits calculs et que je voyais un France-Portugal en finale. Cristiano sera pour moi l'une des grandes stars de cet Euro.
Vas-y, annonce-nous le... quels seront pour toi les stars.
Alors il y a les notes sur lesquelles je mise de stars parce que je pense que la Croatie peut être une équipe surprise, Louis.
J'étais en train de marquer deux Croates, Modric et Rakitic.
Ah bah voilà, j'allais te citer Modric.
Non mais Modric, oui. Qu'est-ce que c'est une star? Une star, celle qui va se mettre et celle qui réussira un grand championnat d'Europe avec une équipe qui sera certainement en finale. Une star, c'est celle qui porte son équipe, moi je le vois jouer. Je l'ai vu jouer deux ou trois fois. Il a une saison un peu en demi-teinte. Alors de cette saison en demi-teinte, je pense en l'ayant vu un peu sur la fin de saison, c'est Eden Hazard. Avec la Belgique. Je l'ai vu sur les deux matchs de préparation face à la Finlande.
Si Eden Hazard fait un bon euro, c'est une grosse cote, là.
Hein. Non, mais attends. Pourquoi? Quelles en sont les raisons? Il ne fait pas une grosse saison, il est blessé. Mais sur les deux, trois derniers mois, il commence à revenir et se rétablir, tu vois. Et tu commences à revenir et à rejouer. Et sur les deux, trois derniers matchs avec Arsenal, avec Chelsea, il est efficace. On retrouve ce garçon, cet accélérateur, ce dribbleur et ce garçon qui peut marquer des différences maintenant. Pour moi, Eden Hazard. Alors après, on va me dire, il y aura Cristiano Ronaldo, il y aura du Gareth Bale. Moi, je vois.
Gareth Bale, il va rentrer chez lui après le premier tour.
Pogba, c'est ma star en équipe de France, hein. Mais
je suis d'accord. Tu vois, moi, c'est par exemple top 3, Hazard, numéro 3, Griezmann, finaliste, équipe de France, favori, Ronaldo, vainqueur de la Champions League. Avec peut-être une bonne génération portugaise qui peut-être créer quelque chose. Ouais, voilà. Et puis j'allais dire aussi pareil, mais par contre la star, j'allais dire médiatique, tout le monde attend Pogba. Pogba, parce que on est chez nous.
On est chez nous.
Si tu vois ces trois premiers matchs, il réussit des gros matchs. Honnêtement, on va le monter en épingle, on va le monter dans tous les sens.
Aucun de vous deux n'a cité Zlatan.
Non, parce que Zlatan, même on le connaît Zlatan.
Il va jouer tout seul dans sa sélection. Qu'est-ce qu'il va nous faire de plus qu'il a fait au PSG, honnêtement? Qu'est-ce qu'il va nous faire de plus? Il va prendre le jeu à son compte, il va redescendre.
Dans son histoire avec la sélection,
il n'a pas la même équipe qu'au Paris Saint-Germain.
Je vous rappelle quand même que dans son histoire avec la sélection, même s'il n'a pas la même équipe, il a fait des trucs extraordinaires. Rappelez-vous le but fantastique qu'il met contre l'Angleterre.
C'est bien ce que je viens de te dire. C'est des choses individuelles.
Qu'il met contre la France. Parce que c'est Zlatan qui indirectement nous fout dehors de l'Euro 2012. Puisque c'est lui qui marque le but qui te fait jouer l'Espagne en quart de finale. Je vous le rappelle.
Il ne faut pas vivre avec le passé.
Non mais donc Zlatan, c'était même s'il est seul dans son équipe,
Zlatan va faire des choses individuelles, il va marquer des superbes buts, mais tous les trois joueurs là, Hazard, il fait jouer les autres. Griezmann, il fait jouer les autres. Ronaldo, de par son aura, il capte tellement d'attention sur lui que les autres vont être un peu libres.
Par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, tu nous parlais de Modric. N'oublions pas Iniesta. N'oublions pas De Bruyne. N'oublions pas cette catégorie de...
Et si je te cite Arda Turan?
Arda Turan?
Non.
Pas assez joué cette année?
Arda Turan, c'est un remplaçant du Barça. Tu me cites Arda Turan.
Oui, mec,
capitaine
de la Turquie.
Gilbert Bribois,
capitaine de la Turquie.
Il peut être capitaine de la Turquie.
Équipe qui fait souvent de beaux parcours en phase finale.
Je me régale avec un Modric, je me régale avec un Iniesta, voilà, je me régale avec un De Bruyne, voilà. Après, il y en aura d'autres qui vont arriver. Les garçons, il y a 24 pays. On va en trouver des révélations, des garçons qui vont se...
Là, c'est un top 10.
Et je te donne un milieu de terrain du Portugal, c'est William aussi. Costaud, là, tu vois.
Alors tiens, on a Jordan avec nous au 32-16. Lui aussi veut nous donner sa star de l'Euro. Salut Jordan.
Salut Jordan.
Salut Louis, salut tout le monde.
Quelle star.
Moi, je vais continuer sur le même sujet. Moi, je pensais à un joueur qui ne vous avait pas parlé, Renato Sanchez.
Il est remplaçant. Et je l'aime beaucoup. C'est le milieu de terrain qui a été transféré à Benfica.
Il peut être un très bon joker.
T'as raison.
Il peut être un attention à la nouvelle génération.
Non, mais celui-là, il est énorme.
Il est énorme. Hier, il nous fait un match énorme encore contre l'Estonie. Certes, c'est que l'Estonie.
Ah, il était dans l'équipe au titulaire.
Ouais, il a joué titulaire hier. Ouais. Et qui sort, qui sort un très gros match hier encore. Et le mec qui signe au Bayern de Munich, c'est Ancelotti, le veut en début de saison pour 40 millions.
Dis-moi.
Je pense que c'est pas pour un dis-moi oui.
Tu connais les Portugais, non? Tu connais un peu si
ouais, ouais, je connais.
Le milieu de terrain, João, du Sporting de Lisbonne, comment il s'appelle, João, au milieu de terrain?
João Mario.
Il a joué hier soir ou pas?
Non, il n'a pas joué hier soir.
Tu sais qu'ils ont une belle génération, là. Ils ont une,
ils ont une super génération.
Ils ont une très très bonne. Pareil, Louis, tu disais William Carvalho. Carvalho. Très, très
il est
bon
énorme. Non, mais ça, c'est très fort.
Attention au Portugal cette année. Après, est-ce que le jeu va être centré que sur Cristiano Ronaldo?
Je vais t'expliquer une chose. Si Cristiano veut se donner la peine, si Cristiano a envie d'être ballon d'or, il vient de gagner la Ligue des Champions. S'il a cette motivation de prendre enfin ses coéquipiers et de les pousser, de les amener, et on est capable. Mais attendez, vous rigolez, okay. On est en train de parler de quelqu'un qui marque 40 buts, 50 buts par an. Tous les ans, mais 50 buts. Ouais. Et il marque dans un championnat. Et on est en train de, c'est la motivation. Si le mec, il est motivé, s'il a l'envie, tout ça, il arrive à
voilà. Tout va se jouer dans la tête.
C'est
de
tout.
Cristiano, selon son humeur.
Parce que, et le Quaresma, il est pas mal aussi, le Quaresma, là,
Si Cristiano décide que ce soit que son euro et juste que pour sa pomme, ils vont se casser la gueule. Ouais. Et s'il décide de prendre l'équipe et de la soulever, le Portugal peut aller très 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 loin.
Pour moi, ils sont dans le dernier carré. Je les vois avec les Belges, avec les Français, avec les Espagnols.
Il
y a peut-être une surprise quand même. Une grosse
surprise. La surprise, c'est l'Allemagne que je ne vois pas. Moi, je ne vois pas l'Allemagne.
Oui, l'Allemagne, ça va être dur.
L'Allemagne est quand même une grosse nation.
J'ai vu leur équipe. Ce qui est bien, on n'en a pas parlé, Gilbert. Hein. Tu sais que dans pas mal de ces équipes, il y a beaucoup d'absences, beaucoup de blessés.
Oui, ils ont
perdu Rüdiger derrière.
Les Allemands, encore, ils en ont perdu deux derrière.
Il y a aussi des joueurs en méforme, mais en fin de cycle.
Mais beaucoup d'équipes sont, on dit la France.
De grosses nations. De grosses nations, on pourrait dire.
Mais moi, j'attends avec un
peu. Ça sent pas l'euro quand la Grèce a gagné? Tu vois, avec une petite nation surprise, une petite nation.
Et il l'avait fait.
Il y a toujours des surprises à l'euro. Rappelez-vous la Turquie en demi-finale, c'était pas prévu. Ouais. Rappelez-vous la Grèce qui gagne.
Est-ce que le Portugal serait une grosse surprise?
Non. Dis-moi, l'équipe qu'ils ont, naturelle ou quoi?
Une grosse surprise d'aller dans le dernier carré quand même. On les met pas dans le dernier carré comme ça, favoris.
S'ils sont dans le dernier carré,
honnêtement, dans le dernier carré, tu vois qui? Tu vois la France, l'Espagne.
La Belgique. Et le Portugal.
Et on va dire, mais le Portugal, c'est pas une obligation.
Attention à l'Angleterre aussi.
L'Angleterre, je regarde un peu, c'est jeune, trop jeune. Et en plus, s'il me met Smalling en défense centrale, Smalling, celui-là. Quand je le vois, le Smalling. De Manchester United.
Smalling.
Le jour, il a marqué un but, Smalling, Gilbert. C'est pour ça que l'Angleterre, ça peut éventuellement être une surprise. Ils peuvent éventuellement, on ne les attend pas. Ils sont pas programmés.
On oublie aussi l'Italie, L'Italie, qui fait pas beaucoup de bruit. Qui fait pas beaucoup de bruit, mais chaque année, chaque compétition, c'est de l'Italie. On les écoute pas. On les calcule pas. Dans le dernier carré, on les voit. Ouais,
regarde une équipe que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, c'est l'Autriche. Regarde bien cette équipe. Tu vas voir, les gens vont te dire l'Autriche. Oui, regardez les jouer, les Autrichiens, vous allez voir.
Alors, quelques tweets, les gars, messieurs, avec le hashtag RMC Live, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai, par exemple? J'ai Molière qui nous dit, la star de l'euro, ce sera la sécurité. On en parle plus que de n'importe quel joueur, dit Molière. C'est pas totalement faux, les problèmes de sécurité, c'est le problème central de toute délégation, extérieure à la France. Donc voilà pour les réactions. Et puis on nous cite Cristiano Ronaldo est celui qui revient le plus sur le hashtag RMC Live.
Comment ?
Cristiano Ronaldo est la star qui revient le plus sur le hashtag RMC Live.
Pas de français dans ton... les Twitter là.
Ah mais là on parle des stars hors de...
Et alors, Pogba c'est pas une star
française.
Pogba de l'élégance, la qualité, la beauté. L'homme qui va faire des gestes. Mais tu vas voir ce qu'il va faire.
Chez Jacques Desange.
Des passements de jambes, il va faire des ouvertures. Mais vous allez voir ce que c'est une star, une vraie star. Mais vous rigolez ou quoi? Tu le vois pas avec la jupe toute l'année ou quoi?
Attends, question. Honnêtement, je le souhaite pas. Pogba il se plante à l'euro.
Oui. S'il se plante, c'est difficile pour lui pour la suite. Pourquoi?
Pour la suite.
Parce que psychologiquement, il va être, ça va le marquer. Voilà. Tu sais quoi, il attend avec impatience ce championnat. Il y en a beaucoup qui l'attendent avec impatience. Que Griezmann l'attend avec impatience.
Voilà.
Et Pogba l'attend avec impatience. Et je pense que
certains joueurs ont une très grosse pression individuelle.
Miento nous dit Jordan se trompe. João était titulaire hier et Renato était sur le banc.
Rappelez-moi Jordan.
On me cite également Petit Prince du Parc. Nous dit Modric, Hamzik qu'on n'a pas cité, Iniesta, Rooney, Kane. Voilà. en vrac quelques stars de l'Euro. Il est vrai qu'Harry Kane, on n'en a pas parlé non plus. Voilà, même s'il n'y a pas de gros favoris qui se dégagent, on a quand même un plateau de joueurs assez fantastique.
Ouais, mais t'as un plateau de joueurs. Mais regarde, comme le disait tout à l'heure Louis, c'est que là, t'as aucune équipe. Honnêtement, t'as pas un favori.
Non, non, il n'y a pas.
T'as la France parce qu'on joue chez nous, honnêtement. T'as l'Espagne parce que ça joue. T'as l'Allemagne un peu moins, mais ça reste toujours très rigoureux.
Ça reste une nation qui a.
Après, t'as le Portugal,
une très belle expérience, expérience aussi. Hein.
Très belle génération portugaise et avec Cristiano Ronaldo. Honnêtement, moi je vois bien.
C'est les Italiens qui sont très.
Comme d'hab, c'est des générations après générations, ils sont dans la culture, de la gagne. Moi, je vois bien une petite nation.
Ils seront quand même toujours là pour montrer et démontrer que ce football-là est toujours aussi présent. Mais on pense qu'avec ces 24 pays, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des surprises, des nations qui se révèlent, des pays qu'on n'imaginait pas. Et des fois, tu dis, je m'imaginais pas en voyant l'Islande jouer aussi bien. L'Irlande, tu vas dire, oh là, ça joue pas mal. Il y a un projet de jeu, voilà.
Allez, on va dire qu'aujourd'hui, toutes les nations ont des joueurs qui jouent dans les très gros clubs.
Et quand tu viens dans un championnat d'Europe comme ça, tu ne fais pas partie des favoris. Le statut de favori, c'est pour qui? C'est pour l'Espagne, c'est pour l'Allemagne, c'est pour
la France,
voilà.
Alors j'espère qu'on vous a tous mis l'eau à la bouche. Bien sûr, vous savez que tous les matchs de cet Euro seront à vivre sur RMC à partir de demain soir, bien sûr, et qu'à partir de demain
14h.
Demain de 14h à 1h du matin, demain
du matin.
Sur RMC spécial Euro, et ce sera comme ça tous les jours.
1h du matin, bravo.
Sur RMC jusqu'à 1h du matin les jours de l'équipe de France notamment, et puis s'il y a prolongation lors des matchs
décisifs.
On y va. Absolument rien. Dans quelques instants, on va également vous briefer sur l'arbitrage, car Joël Quignoux va nous rejoindre, notre arbitre radio. Il va y avoir dans cette compète des petites modifications.
Tu veux que je te dise la vérité?
Ouais.
Quand tu me parles de l'arbitrage, pour les compétitions européennes, pour ces fameuses Ligues des Champions, Europa League, quand je vois l'arbitrage, le niveau de l'arbitrage, mais je n'ai pas d'inquiétude, Gilbert. On est super bien arbitré. Il y a de très 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 bons arbitres. Et on espère et on souhaite.
Dont un Français, Clément Turpin.
Que M. Clément Turpin.
Joël Quignoux, dans quelques instants, t'explique tout sur les changements de règles. Et puis, le projet iranien à l'OM est-il sérieux? Nous en débattons ensemble au 32-16 dans quelques instants dans Louis Attaque.
Dans la surface de réparation pour Rougirou!
RMC, Louis Attaque, Gilbert Bribois, Louis Fernandez. L'UEFA Euro 2016 a déjà commencé.
Eh oui, mon petit Gilbert, on est veille de match. Demain, c'est le match d'ouverture. Ce match d'ouverture que nous attendons tous supporters de l'équipe de France avec impatience de voir cette équipe de France démarrer, commencer et rentrer dans la compétition et prendre ses 3 points. Mais faut toujours aussi, et je te le dis par expérience, respecter notre adversaire.
Et l'arbitre, on va parler des arbitres.
Plus. Ah bon?
Oui, nous sommes à J-1, vous le savez, attention.
On a la même passion.
Point arbitrage dans Louis Attaque.
C'est ça, là on est dans le vrai. Quand il y a un fil conducteur qui est commun, les gars, on y met l'application, la simplicité, oui, vous êtes comme ça.
L'UEFA Euro 2016 a déjà commencé sur RMC.
Et pendant tout l'Euro, Steve et Louis, notre arbitre radio, Joël Quignoux, sera avec nous pour décrypter les décisions arbitrales. Salut Joël.
Salut Louis, salut Gilbert.
Il y aura toujours la sonnerie, il y aura une petite sonnerie là pour... hop, on a fait appel à...
L'arbitre radio, bien sûr. L'arbitre radio.
Ouais, mais finalement, j'ai un peu qu'elle retentit.
Attention parce qu'on ne t'entend pas bien, Joël.
Ça voudrait dire que si elle retentit trop souvent, ça voudrait dire qu'il y a des erreurs qui sont commises. Hein.
Non, mais moi, je pense que le niveau de l'arbitrage là pour ce championnat d'Europe, je trouve qu'il est bon. Je pense que ces arbitres qui ont été sélectionnés, parce qu'on on les sélectionne sur des critères d'une saison, sur des matchs internationaux, sur des matchs de l'Europa League, la Ligue des Champions. L'Europa League, le lendemain, j'ai pas de quoi, je sais pas, je trouve que le niveau est très très bon. Voilà, après maintenant c'est
alors c'est, les gars, de pas leur mettre trop de pression. Petit point sur les règles.
Ouais.
Joël, pour la première fois dans une compétition internationale, ça concerne aussi la Copa América hein, qui a démarré il y a quelques jours maintenant. On peut dire bye bye à la double peine.
La double peine, ça c'est important. Depuis le temps qu'on le dit, ça pénalisait, ça faussait des matchs. Et c'était surtout le spectacle, parce qu'une double peine d'entrée en début de match, c'est vrai qu'il y avait un sentiment de frustration.
On va rappeler.
Il n'y a plus de double peine.
On va rappeler ce que c'est. Un attaquant, par exemple, part sur le but, il est fauché par le gardien. Avant, c'était pénalty, carton rouge. Maintenant, ce sera uniquement pénalty.
Voilà, sauf bien sûr si c'est une agression, si c'est une faute caractérisée d'anti-jeu, il y aura le pénalty et il y aura toujours forcément le carton rouge. Mais en dehors de ça, on se limitera au simple carton jaune. Par exemple, une main dans la surface, eh bien, ce sera pas la double peine, ce sera simplement le carton jaune avec le pénalty.
Voilà, donc ça c'est assez quand même innovant et même je dirais révolutionnaire.
Il fallait faire quelque chose.
Combien de matchs ont été
il fallait trouver faire quelque chose de nouveau
là.
Parce qu'assez souvent on avait souvent des commentaires, des décisions qui nous semblaient un peu dans lesquelles on disait c'est un peu trop sévère.
Cette réflexion là, alors elle a dû être en amont.
Bien sûr.
D'avoir la réflexion de la possibilité du carton jaune. On a tout de suite été dans la sévérité extrême à mettre le carton rouge plus le penalty. Alors que oui, mais c'est là où c'est quand même dingue.
C'est possible, lui, il les a trop souvent défendus.
On peut le revoir. Moi, je trouve que c'est une bonne décision.
Non, mais de le revoir, c'était pas un problème. C'est en amont, cette décision n'aura pas dû être valable. On aurait dû d'abord avoir la possibilité d'avoir un carton rouge, mais le carton jaune s'imposait et la possibilité de mettre un carton rouge et le pénalty. Parce qu'on est quand même dans une zone de jeu très importante et décisive. Mais demain, j'ose à croire que le premier arbitre qui va faire ça, c'est-à-dire carton jaune et pénalty, mais tout le monde va lui tomber dessus. Parce que ça sera peut-être pas le moment, ça sera pas la situation. On aura dit qu'il y avait eu acte d'anti-jeu, il y aura eu sévérité sur le tacle et tout. On va lui tomber dessus, on va forcément lui trouver encore quelque chose à lui dire.
Alors, petit changement également, Joël, concernant le hors-jeu.
Oui, alors là, on
c'est
a
que
rajouté,
dans la surface de réparation. Alors,
écoutez bien, les gars.
Alors, c'est vrai que le hors-jeu, finalement, le corps, la tête et les pieds rentrent dans la position du hors-jeu, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut positionner, évaluer le joueur en position de hors-jeu. On l'évalue par rapport à la position de son corps, de sa tête et de ses pieds. Ne rentre pas dans la configuration du hors-jeu, les bras, mais ça on le savait, hein, puisque c'était déjà dans le passé, et les jambes, c'est-à-dire que si les jambes sont en avant par rapport à la position du corps, eh bien, on ne considère pas qu'il y a une position de hors-jeu. Bon, à mon avis, ça ne va pas jouer sur grand-chose, mais bon, il faut le préciser, c'est-à-dire que les bras et les jambes ne rentrent pas dans la configuration du hors-jeu, tout simplement.
Joël, j'ai une question pour toi, moi qui étais très, très, très souvent hors-jeu dans ma carrière. J'ai même eu première fois, j'ai eu le trophée, le joueur le plus hors-jeu de Ligue 1. Joël, tu peux nous faire, parce que j'ai pas encore vu un entraîneur de Ligue 1 ou même d'équipe nationale utiliser leur jeu passif. Est-ce que tu penses pas que là, ça va être pernicieux du joueur passif?
Le hors-jeu passif, c'est une autre notion. C'est-à-dire que vous avez un joueur qui est
qui joue la carotte
position
devant.
Oui, mais voilà, c'est toujours la même appréciation. C'est-à-dire que si le ballon va vers un joueur en position de hors-jeu, il doit être sanctionné. Par contre, si le ballon ne va pas vers le joueur, il est simplement en position passive, eh bien, il ne rentre pas dans cette configuration d'être sanctionné. Le joueur n'est pas sanctionné. Alors, c'est vrai que ça ouvre aussi, comme tu le dis,
Le jeu de la carotte.
Voilà, exactement. Mais ça a toujours été, malheureusement, vous avez un joueur qui est sur côté latéral, hein, forcément, il y a un défenseur qui est sur lui, hein, Louis peut en parler aussi, et puis, bon, finalement, le ballon va partir à droite, on va dire, oui, mais vous voyez, le joueur a quand même influencé. On considère que c'est une position passive, mais c'est toujours une question d'appréciation, d'interprétation, c'est jamais facile, en tous les cas, la règle, elle est comme elle est.
Ce que j'aimerais, une bonne fois pour toutes, parce qu'assez souvent, ça se joue à pas grand-chose, ça se joue à, je sais pas, tu dépasses sa peine. Je trouve que sur ce genre de situation, il faudrait arrêter de lever le drapeau. Je trouve que si vraiment pour lever un drapeau, il faut que le mec soit passé complètement derrière son adversaire. Ouais. Que par exemple, le but de Ramos en finale de la Coupe d'Europe, le premier là, ça se joue à quoi? Ça se joue à rien. Alors c'est sûr qu'avec les caméras, avec la vidéo, on peut dire il est hors jeu. Mais bon, ça va, il y a 10 centimètres, ça se joue pas à 3 mètres, ça se joue pour quelques centimètres. Alors sûr que quand on voit la vidéo, on aurait dû le refuser. Oui, mais sur le moment, l'arbitre, c'est dur pour lui de le refuser, ce but-là. Ouais. C'est très dur.
Je suis indulgent avec les arbitres, ce soir.
Non, parce que la vidéo te dit, il est hors jeu. Mais l'arbitre, lui, qui doit désigner, qui est là-bas de l'autre côté, C'est pas pareil, hein.
Alors encore deux petites choses, Joël.
Oui.
Les soins, alors les fameux soins de Monsieur Lannoy. On va pouvoir désormais soigner les joueurs sur le terrain. On n'oblige plus les joueurs à sortir du terrain pour se faire soigner.
Oui, parce que ça c'est logique, parce que on avait souvent une équipe en infériorité numérique parce qu'un joueur avait été blessé par un adversaire, et finalement c'est eux qui étaient pénalisés parce qu'à la limite l'équipe adverse elle jouait à 11 contre 10, elle pouvait peut-être marquer un but. Alors forcément si une blessure dure trop longtemps, le joueur sortira, mais autrement donc c'est vrai, le joueur sera soigné sur le terrain.
Ça va provoquer des arrêts de jeu, ça. Des arrêts de jeu supplémentaires.
Ça provoquera un peu plus d'arrêts de jeu, mais quand même, c'est tout à fait logique qu'on puisse soigner un joueur, que l'équipe se retrouve à 10 contre 11, alors que la faute a été commise par l'équipe adverse. Ça me paraît tout à fait normal et tout à fait évident, Gilbert.
Joël, je suis très pernicieux et je vois très le vice. Je vois le vice. Une équipe qui est en plein temps faible.
Qui est menée.
Ou tu vois un peu
un truc en faveur ou en défaveur.
Eh ben honnêtement, mais ça va faire pareil. Ça va amener des joueurs à appeler des soins, d'arrêter le temps. Tu sais, quand t'es mené, quand t'as vraiment un impact devant toi, quand tu arrêtes pas de défendre. Moi, j'avais toujours l'entraîneur qui me dit, faut qu'on crée un événement. Voilà, faut qu'on crée un événement, faut qu'on casse leur dynamique. Alors soit, à un moment donné, tu mets un tacle super sévère et puis on se regroupe tous autour du ballon, tous autour de celui de l'agresseur. Mais moi, je pense que de faire les soins sur le terrain, ça va tellement casser la dynamique de l'équipe qui est en phase d'attaque.
Oui, mais regarde
ça va être une arme en plus.
Demande à Louis, regarde ce qui se passait, tu l'as connu aussi, regarde ce qui se passait dans le passé. Dans le passé, les joueurs étaient soignés sur le terrain, mais on rentrait pas dans ces polémiques. Et vous avez aussi les équipes qui peuvent faire des remplacements en fin de match aussi, bon, pour casser le jeu. Mais quand même, est-ce que c'est plus logique, de demander à un joueur qui est blessé de le sortir du terrain, alors bon, c'est l'arbitre qui le décide aussi, hein, de faire entrer les soigneurs, ou alors de lui dire non, vous restez sur le terrain, et puis après, le joueur sort, il est en infériorité numérique, enfin oui. L'équipe est en infériorité numérique et ça favorise quand même notre équipe.
Alors, sur ce genre de
tout n'est pas parfait, mais il faut choisir la solution la moins évidente, quoi.
Joël, sur ce genre de situation, l'arbitre, étant donné qu'il est le plus proche, parce que c'est l'homme qui est le plus proche, doit aussi se sentir et tenir compte de la gravité du choc quand même. On sait très bien, quand il y a contact, c'est une poussette, tu le pousses, le mec il tombe, tu vas pas y passer toute la journée. C'est pour ça que...
Dernière petite innovation, la possibilité désormais pour les arbitres de donner des cartons rouges avant les matchs. Ça n'existait pas. Imagine, il y a par exemple une échauffourée dans le tunnel,
dans le couloir.
C'est quand même assez exceptionnel. Bon, ça peut arriver, hein, des joueurs qui se retrouvent après un précédent match peut-être houleux. Bon, mais c'est vrai qu'on peut donner un carton rouge avant le match et le joueur ne peut pas forcément participer à la rencontre.
Et à quand le carton blanc?
Ah ben là, le carton blanc, l'expulsion temporaire, c'est vrai, le carton blanc, ça permet peut-être de calmer les ardeurs de quelques joueurs, notamment
moi,
en contestation.
Tu vois, je le vois, moi, dans le monde amateur, le nombre de problèmes que ça a résolu.
Carton blanc, ça voudrait dire exclusion temporaire.
Voilà, exclusion temporaire. Je vois, dès que tu parles à l'arbitre ou tu parles à un autre joueur d'une façon... voilà, pas net, tu sors pendant quelques temps, 2, 3, 4 minutes, le temps de t'aller te reposer un petit peu. Et je trouve que ça, c'est une bonne alternative au carton jaune.
Merci,
au carton
Joël.
Merci à tous, et surtout pour les matchs de jeunes, hein, en tout cas. Bravo, allez.
Tu seras également tout à l'heure avec Jean-Louis Tour et Captain Larkin en intégral euro, bien sûr, pour parler de tous ces règlements, parce que c'est important d'avoir tout ça en tête avant le match de demain soir. Allez, l'euro, c'est demain. Nous, dans quelques secondes, on parle de l'OM.
Avec GoSport, suivez toute l'actu de l'événement foot de l'année. GoSport, vivons sport.
Deux infos. Henri Bédimo en visite à Marseille, messieurs. Donc, Bédimo se rapproche. Non, il est visité à Marseille, pas pour voir de la famille. Hein.
Il peut éventuellement.
Il est plutôt
là
pour discuter,
des amis, des copains.
Et signer un contrat à l'OM, Louis, pour être concret.
Il s'est peut-être passé devant la commanderie.
Comme on dit, il a visité les installations. Ça, c'est le grand terme. Et
pour faire le choix, il ne sait pas. Et quel âge il a, Henri? J'aurais bien aimé l'avoir au téléphone, celui-là, pour lui demander à ton âge, maintenant, t'as besoin d'aller regarder les installations.
Oui, bah, c'est le prétexte. Quand on dit visiter les installations, c'est qu'il est venu parler aux ailes pour négocier ton contrat.
Henri, si tu nous entends, t'aurais mieux fait d'aller les voir, les précédentes. Hein. T'aurais peut-être fait des meilleurs choix. Hein. Vas-y.
Et puis, cette information de France Football, qui en parlait déjà hier, Margarita Ludrefus est en discussion pour la vente de l'OM avec un acheteur venant d'Iran qui envisage envisagerait de miser très très gros. Alors tout ça, bien sûr, est à mettre au conditionnel. On parle d'un budget annoncé de 500 à 600 millions d'euros et des acquéreurs qui réfléchiraient déjà au prochain mercato. Il y aurait eu un rapprochement donc entre ce fonds d'investissement iranien et l'équipe de Margaret Hellerefus qui gère la vente. Voilà les dernières infos concernant l'Olympique de Marseille. Si les chiffres se confirment et si ce rachat se confirme, ce serait évidemment une bonne nouvelle pour Margaret Hellerefus qui pourrait enfin vendre le club. Et si les budgets sont à cette hauteur-là, ça relancerait complètement l'OM. Hein.
Bah pourquoi ça serait pas solide le fait que ça soit un fonds d'investissement?
Je ne pose pas la
question à toi.
J'utilise le conditionnel parce qu'il n'y a encore rien de tacté.
C'est très bien. Des investisseurs qui investissent comme Paris, les Qataris l'ont fait. Il n'y a pas 50 marques de clubs français. Paris, il y a l'OM. Honnêtement, l'OM, c'est un truc de dingue.
Pour compléter les infos, selon France Foot, l'Iran aimerait également investir dans d'autres sports, ce fonds d'investissement iranien, dans rugby, cyclisme. Et surtout, actuellement, Vincent Labrune ne fait pas du tout partie des plans éventuels de ce repreneur.
Voilà. C'est quand même assez surprenant.
Il y aurait une réorganisation totale.
C'est quand même assez surprenant. Tu nous parles aujourd'hui d'un repreneur iranien qui aurait un fonds d'investissement, qui aurait les moyens pour, pourquoi pas, racheter l'Olympique de Marseille. Si réellement, ce fonds d'investissement iranien, je pense que c'est pas aujourd'hui qu'il serait certainement en train de rechercher à reprendre un club. Non, ils auraient pas pu déjà se positionner sur d'autres.
Le problème, lui, c'est que l'Iran.
Je sais pas,
il y a eu un boycott politique qui vient de sortir. Ça fait 6 mois.
Alors, il y a eu une levée des sanctions économiques de la communauté internationale envers l'Iran.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, l'Iran peut investir à l'étranger. Le sport est un vecteur de communication et de promotion qui est important.
Comme le Qatar.
C'est ce qu'a fait le Qatar. C'est ce que fait le Qatar. Pourquoi l'Iran ne le ferait pas?
Et
l'Iran a aussi des ressources naturelles très importantes.
Non, mais je suis pas en train de contester le repreneur. Je suis en train de te dire tout simplement que j'attends avec impatience, parce qu'avec Marseille, on en a tellement vu.
C'est sûr
que
là, tout le monde attend à Marseille. Hein.
On en a vu des repreneurs à Marseille.
La mairie,
on a vu
les supporters, tout le monde.
Tu sais, dans le passé, il y a des gens qui se sont un peu positionnés, qui se sont mis en avant, en donnant, en se disant, voilà, on a les moyens. Parce que des fonds, ils se connaissent,
Patrick,
tous ces gens-là.
Louis, Patrick est supporter de l'OM.
Patrick parle, ils en connaissent, les Margarita, ils en connaissent, des jeunes d'affaires, ils en connaissent, des fonds d'investissement. Hein.
À cette hauteur d'investissement.
Bon, Patrick, supporter de Marseille?
Eh oui, tu le sais, Louis.
Et oui, et tu es content maintenant, t'as une bonne petite nouvelle là, non?
Non, pas vraiment. J'ai pas du tout, je saute pas de joie. Moi d'abord, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que, quoi qu'il arrive, moi, un investisseur qui arrive sans que l'on puisse être sûr que l'OM garde son identité, sa marque, ça c'est important. Moi, je suis un Marseillais dans l'âme et je suis supporter de l'OM. Si demain, je vois le club changer à tous les niveaux, très sincèrement, 600 millions ou pas, c'est pas ça qui va me faire sauter de joie, même si on joue les premiers rôles. Et le deuxième, c'est ce que tu disais un petit peu, Louis,
oui.
Là où je suis sceptique, les Iraniens qui veulent investir, ça c'est possible.
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'ils viennent faire actuellement dans un club comme l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y a autre chose derrière, et pour moi ça n'est pas pour remonter le club, c'est qu'une façon de s'implanter, et ça c'est la deuxième chose qui me plaît pas trop non plus, mais c'est peut-être un peu plus extra-sportif. Voilà les deux raisons qui font
je crois pas qu'il faille voir le mal forcément partout.
Non, je vois pas le mal.
Quand Abu Dhabi a investi à Manchester City,
de toute façon, il n'y a pas de secret.
Oui, quand Qatar investi au PSG.
Manchester City, c'est quelque chose.
L'OM, c'est pas une marque. Non, mais c'est là où je comprends pas. C'est que, on va se dire, mais où sont les capitaux dans le monde? En Asie, en Amérique du Sud, voire un peu aux États-Unis, et dans le Golfe.
Ouais, surtout aux États-Unis quand même.
C'est tout. Donc après qu'on s'offusque qu'en France, on est des investisseurs étrangers et d'autant plus dans le Golfe qui investissent en France, mais ils vont l'investir où leur argent? Dans le football? Ils vont investir en MLS? Non, ça parle pas. Ils vont investir en Europe? Ah, ben le Barça c'est pas à vendre, le Real c'est trop cher. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a pas de secret. Ils vont venir chercher l'OM qui est une grosse marque qui vaut pas grand, pas beaucoup, et voilà, c'est tout.
Ils vont investir pour avoir gagné d'argent. L'entreprise qui serait mise en première ligne, c'est l'entreprise aérienne Iran Air, qui est l'entreprise nationale aérienne iranienne.
C'est bien. On va
à suivre donc. Ouais. Messieurs, le dernier Tekitoine.
Oula, je suis sur
dans quelques instants.
Vite, vite,
c'est dans Louis Attaque, tout de suite.
Pas trop de temps pour Louis.
Plusieurs options avec une dernière info. Compo pour demain. Confirmation sans doute. On va voir avec Jérôme de Payet titulaire demain. C'est tout de suite dans Louis Attaque.
Louis Attaque, Gilbert Bribois, Louis Fernandez.
Allez Gilbert, allez avant le David Tekitoine, il y a les informations de l'équipe de France. La composition va nous être donnée. C'est ça Gilbert ?
Alors l'info, allez. Vous savez, qui est nécessaire, c'est la confirmation de Dimitri Payet comme titulaire. Mohamed Bouafsi est avec nous. Mohamed, bonsoir, rebonsoir.
Rebonsoir Louis, rebonsoir ouais. Gilbert, bonsoir messieurs.
Ouais, tu nous confirmes Payet ou bah, pas bon. Encore sûr à 100%?
Eh bien, sûr à 100%, en tout cas après ce huis clos effectué par Didier Deschamps. En tout cas, la titularisation de Payet sur le côté gauche de l'attaque ne fait plus aucun doute. Ces informations glanées avec Jérôme Sillon, puisque ce jeudi soir au Stade de France, pendant l'entraînement de veille de match, Didier Deschamps a effectué une opposition. Et pendant toute l'opposition, Dimitri Payet était titulaire dans les attaquants à gauche, accompagné d'Olivier Giroud et Antoine Griezmann.
Je pense qu'il commencera là. Merci, Mohamed. Il y en a qui commenceront. La compétition, ils ne
la fuiront pas.
Ils ne la fuiront peut-être pas. Ah, c'est comme ça dans chaque compétition. Hein. Vas-y, on y va. Tekitoine, on y va, Tekitoine.
RMC, Louis attaque.
Tekitoine. Allez, va. Il est venu motiver le mec.
Le dernier Tekitoine de la saison avec Imad. Qui est avec nous. Salut, Imad.
Salut, Imad. Imad. Tu veux pas parler, Imad?
Imad, ouais. Bonsoir.
Salut, Imad.
Salut, Louis.
Salut, Imad. Tu prends Steve ou tu prends Louis?
Ah, je vais choisir Louis.
Bah, allez, t'as raison, je vais perdre le dernier Tekitoine.
Ça va, Jérémy?
Ça va.
Tu prends Steve ou tu prends Louis?
Ben, je prends Louis aussi alors.
Ah non, tu prends Steve, puisqu'il m'a pris Louis.
Allez, les gars, chauffez-moi, prenez tous les deux.
Avec Louis. Jérémy avec Steve, attention. Tekitoine qui va concerner les 23 bleus qui jouent l'Euro à partir de demain avec l'équipe de France. Je vais vous donner la ville de naissance d'un joueur. Vous allez devoir me trouver le joueur qui est né dans cette ville.
Je les ai tous en tête.
Ah, ouais. Non, mais les yeux, il les fait la veille.
Attention, vas-y. Évidemment, on vas-y. Parle après le coup de sifflet. Attention. Je suis né à Saint-Pierre de la Réunion.
Evra
Payet.
Bravo, mon petit Imad.
Imad, c'est évidemment le seul réunionnais de l'équipe, donc c'était facile.
Oui.
Dimitri Payet. Attention, je suis né à Chambéry. Et j'ai démarré ma
carrière. Giroud.
Bravo, Imad.
Jérémy,
c'est Jérémy. Un partout, ouais. Effectivement, Giroud, né à Chambéry, qui a déjà joué à Grenoble.
C'est vrai.
Attention, pour ma part, je suis né à Bastia. J'ai vécu ma petite enfance en Corse.
Rami,
Adil Rami. Steve, c'est vrai, c'est bon. Et oui, il a vécu en Corse longtemps, Adil Rami. Et il est né à Bastia. Attention, ça fait 2-1 pour Steve et Jérémy. Attention. Je suis né à Nice. J'ai démarré.
Louis, c'est Louis.
C'est Louis.
Oh lolo.
Avant le coup de sifflet.
Non, parce que le mec il est trop lent.
Ouais, avant le coup de sifflet.
Le mec il est trop lent, Gilbert, arrête. Ça fait 15 minutes que tu poses ta question.
Le point ne compte pas. C'est avant le coup de sifflet. C'était
le point ne compte pas.
Évidemment, toujours 2-1.
Arrête un peu, balance avec ta musique.
Toujours 2-1 pour Jérémy et Steve. Attention, c'est parti. Je suis né, pour ma part, à Yaoundé. J'aurais pu jouer pour le Cameroun. J'aurais pu jouer pour le Cameroun, mais finalement j'ai choisi la
Côté. Kanté. El Kolo Kanté, c'est Louis Bigouin.
J'ai entendu la réponse.
C'est Imad.
Imad ou Jérémy?
Imad.
Qui a dit Oumtiti?
C'est Imad.
Ah, c'est Jérémy.
Ah, c'est pas moi.
C'est qui?
C'est Imad. C'est pas moi.
Il m'a semblé entendre Oumtiti, donc le point n'est pas accordé puisque c'était Samuel Oumtiti.
J'ai dit Samuel.
Non, t'as rien dit du tout. Attention, continue. Je suis né pour ma part à Dakar.
El Kolo Kanté.
Qui a dit Evra?
Ça c'est Imad.
Moi c'est moi Evra.
Imad, il a dit Evra depuis le début.
C'est Imad.
Même né à la Réunion.
Ça fait 2-2. C'est Patrice Evra qui effectivement est né à Dakar. Je rappelle que son père était un diplomate sénégalais. Attention. Je suis né pour ma part à Kinshasa, en République démocratique Congo.
Kanté.
Non, j'ai commencé ma carrière au Havre. J'ai commencé ma carrière au Havre.
Mandanda.
Mandanda, Louis.
Bien joué.
C'est bon.
Et qu'est-ce qu'il y a, oh là là? Qui c'est qui a dit oh là là?
Ça fait 3-2.
Il a dit les 23 en 5 minutes.
Attention, je suis né pour ma part dans la même ville que Gilbert Bribois, à savoir...
Strasbourg. Non.
Strasbourg.
Schneiderlin.
Oui, c'est bon. Ça fait 4-2. Morgan Schneiderlin, le seul assassin de l'équipe. Attention. Je suis né et je joue toujours dans la même ville. Je suis né à Lyon. Et je joue toujours à Lyon.
La Gazette.
Je fais partie des réservistes La Gazette.
Eh oui.
Louis.
Ah non. Ah bah non, je suis.
C'est pas valable.
Il est pas dans les 23.
Il a dit.
Non.
Écoutez la Gazette.
Je suis pas d'accord. Tu as dit les 23. T'as pas dit 23 plus réserviste. Voilà. Ok.
Allez, ok. 4-2. Ok. Je retire ce point. Ok. 4-2.
D'accord, Jérémy. Je vous en fais cadeau. Ça sera.
Je suis né pour ma part. Il y a toujours 4-2. Attention, faut aller vite maintenant. Je suis né à Mâcon.
Griezmann.
Bravo, Imad. Imad.
C'est Imad. Ça fait 5-2.
Là.
Et si Louis et Imad ont encore une bonne réponse, c'est gagné. Sinon, c'est la remontada. Attention. Je suis né pour ma part à Toulouse. Eh oui, à Toulouse. Alors que je joue aujourd'hui au Paris Saint-Germain.
Matuidi,
c'est bon, ça fait 5-3. 5-3, on continue. Attention, je suis né à Tourcoing. À Tourcoing, au Nord. Et j'ai joué.
Et j'ai joué à Lille.
Cabaye, le dernier de qui doit gagner, gagné par Louis et par Imad.
Je ne pouvais pas partir sur une défaite avec l'adversaire idéal.
Ah, ça va, 5-3, ça.
Merci
va.
Steve, durant toute l'année, t'as été très bon. Salut, à bientôt. À l'année prochaine, je reviendrai l'année prochaine.
Demain, t'es là à quelle heure demain?
14h
avec Pierrot
d'Orient.
Tout le rond, le vrai
doublé qui va démarrer, qui va commencer à 14h. Avec le feu, voilà.
Et si vous le retrouverez également pendant l'Euro, notamment sur BFM TV, sur RMC, enfin partout quoi. Et tout de suite, c'est l'intégrale Euro 2016 avec Jean Vitour.
Oh là là, mais c'est pas fini, Louis. Je pensais que ça y est, on était en vacances, mais non, il revient demain à 14h. Voilà, c'est terrible. Bon, nous on revient tout de suite avec Captain Larky, avec Coach Courbis, bien sûr, l'intégrale foot Euro 2016 qui arrive jusqu'à 22h. Les détails de la compo pour demain face à la Roumanie avec Jérôme Sillon qui suit l'équipe de France. On vous pose cette question également, le match de demain est-il déjà crucial? On attend votre avis. Et puis gros plan sur les autres sélections, l'Allemagne notamment. Et gros plan sur l'arbitrage. Quelles seront les nouveautés? On en parle avec Joël Quignoux qui sera notre arbitre radio pendant toute la compétition. On vous attend 32-16 et hashtag RMC Live sur Twitter. Venez donner votre avis, confrontez vos points de vue avec Coach Courbis et Captain Larky. À tout de suite.